savoir, mon ami, comment vous exercez actuellement vos talents.
Puisque cela vous intéresse, je termine, enfin je mets la dernière main, à une chose tout à fait passionnante.
Bonjour à tous, vous écoutez Le Déjeuner sur Rennes, l'émission artistique de Silab. Comme chaque semaine, nous allons parler artistes, galeries, expositions, œuvres et j'en passe. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook sur laquelle nous publions les liens de tous les sujets traités, ainsi que le podcast de l'émission. Alors comme toujours à mes côtés, Jeanne, Héloïse et Lucille qui vous ont concocté chacune une chronique. Bonjour les filles.
Bonjour.
Et on salue Adèle à la réalisation. Au programme aujourd'hui, la découverte de la galerie L'Hôte à Rennes. Adèle et moi, nous sommes allés interviewer Soisic L'Hôte qui possède et gère la galerie. Toi Héloïse, tu vas nous parler de leur exposition Céline Rangée ainsi que d'une autre galerie.
Exactement, aujourd'hui je vais vous parler de deux galeries à Rennes, donc la galerie L'Hôte et la galerie Oniris qui fête ses 30 ans.
Lucille, toi, tu t'es intéressée à Édouard Manet et au portrait de Zola qu'il a réalisé. Nous verrons quelle pouvait bien être la relation entre les deux hommes. Et toi, Jeanne, tu nous as préparé, comme chaque semaine, les actualités web et pop culture à ne pas manquer. Avant cela, concentre-nous sur la galerie L'Hôte. Située 16 rue de Bertrand, en plein centre-ville de Rennes, cette galerie est gérée par Soisic L'Hôte, qui l'a ouverte en 2005, il y a maintenant 11 ans. Elle nous explique son choix d'exposer des œuvres diversifiées qui proposent, comme elle l'affirme, un autre regard sur l'art contemporain, jamais consensuel et toujours atypique.
En fait, comme la galerie a la chance d'avoir un rez-de-chaussée et un étage, on fonctionne avec l'invité d'honneur qui est au rez-de-chaussée et puis les autres artistes qui tournent à l'étage. On a des univers qui sont très différents, on a des peintures et des sculptures principalement. On avait eu un petit peu de mobilier de designer quelques temps, après sur des univers très différents et des techniques très différentes. Voilà. Donc on se ferme sur aucune technique et les artistes ont tous une approche assez différente et assez complémentaire. Au tout début et pendant plusieurs années, parce que je trouvais ça sympa de présenter aussi des bijoux de créateurs, c'était des petites sculptures, voilà, c'était plutôt assez... Bon, là, on le fait plus, mais on ne dit pas qu'on le refera plus, hein, mais pour l'instant, il n'y en a plus. Voilà. Je ne veux pas m'enfermer dans des modes, en fait, tout simplement, pour être présente sur des salons à Paris. On voit, de toute façon, il y a toujours des espèces de mode tous les ans qui se dégagent. Donc l'année dernière et l'année d'avant, c'était beaucoup les œuvres avec beaucoup de résine en surface pour leur donner un peu de profondeur, ce qui n'apportait pas forcément quelque chose à l'œuvre. Enfin, il y a des cas dans lesquels ça va être intéressant, mais ce n'est pas toujours efficace. Donc voilà, je ne veux pas m'enfermer dans quelque chose qui serait à la mode. J'ai des artistes parfois qui me démarchent en me disant « Je viens vous voir, mais ce n'est pas ce qui se vend en ce moment. » À la rigueur, je préfère entendre ça plutôt qu'un artiste qui arrive en me disant « Vous allez voir, ça va partir comme des petits pains, vous n'allez peut-être pas aimer, mais ça va être très sympa. » Ça, ça ne m'intéresse pas, par contre. Voilà, je préfère fonctionner au coup de cœur. Les modes, elles sont faites pour passer, donc je préfère choisir des choses qui durent et des choses qui me parlent.
Elle évoque également sa relation avec les artistes qu'elle décide de représenter et l'aspect très personnel de sa profession.
On n'a pas de grille selon laquelle on choisit, voilà, il n'y a pas de critères vraiment prédéfinis. Alors, on présente évidemment que des artistes professionnels. Après, il se trouve qu'on cherche des artistes avec un univers propre et fort. Donc, du coup, en général, c'est plutôt des artistes confirmés, enfin, qui ont un certain parcours derrière eux, qui leur ont permis d'affiner un petit peu un univers et d'avoir un fil conducteur dans leur travail. Après, techniquement parlant, je suis assez casse-pied, donc je demande à ce que ça soit nickel. Et puis, donc voilà, il faut un univers, il faut qu'il y ait une histoire, il faut que ça me parle, il faut que la rencontre avec l'artiste se passe bien aussi. On a une chance énorme dans notre métier, c'est qu'on peut choisir avec qui on peut travailler. Donc du coup, choisir des artistes avec qui ça passe bien, qui ont une âme dans leur travail, et des œuvres que je n'ai pas l'impression d'avoir déjà vues ailleurs. Voilà, des choses qui me parlent, qui me touchent. Je ne veux pas et je ne sais pas présenter des œuvres qui ne me plaisent pas. Je veux me fermer sur aucune technique. C'est pour ça qu'on a des choses qui sont très différentes. On a des sculptures en terre, des sculptures en bronze. On a des œuvres sur papier, on a des huiles sur toile, on a des techniques mixtes sur bois. Donc on a des choses très différentes. Ça, je ne veux vraiment pas me fermer de porte là-dessus. Mais par contre, après, le fil conducteur, effectivement, c'est mes choix à moi. Donc ça va être des facettes de ma personnalité, certainement, qui vont sortir sur le choix des œuvres. Mais avec des univers très, très différents à chaque fois.
Alors, lorsqu'on regarde les œuvres et les artistes exposés, on s'aperçoit de la prédominance des femmes artistes dans sa galerie. On peut citer par exemple les sculptures récemment acquises de Lily Mérante. Soisic L'Hôte nous en parle, ainsi que de l'importance de l'humain dans les thèmes abordés par les artistes.
La parité n'est pas vraiment respectée chez moi. Ce n'est pas un choix délibéré de ma part. Hein. Je ne choisis pas plus des femmes que des hommes. Je choisis au coup de cœur. Alors, il se trouve qu'en plus, les hommes avec qui je travaille, il y en a un notamment qui travaille que sur du nu féminin. Donc forcément, ça ne va pas m'aider pour amener la parité à la galerie. Mais ce n'est pas un choix, c'est pas un choix de ma part. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais on ne ferme pas la porte aux artistes messieurs. Il n'y a pas de souci. C'est juste une question de feeling entre le travail qui m'est présenté et ce que j'avais envie de proposer à la galerie. Je me dirige toujours un peu malgré moi, les choses qui me touchent en général, c'est ce qui me touche dans la vie, donc effectivement l'humain sous toutes ses facettes, ça va m'intéresser. Donc effectivement on a pas mal de portraits ou de thématiques de vie quotidienne, des scènes de vie, mais on est encore sur des personnages. Alors je vais essayer de vous faire mentir un petit peu parce que dans 10 jours on reçoit les œuvres de Jean Balitran, qui est un grand monsieur de l'abstraction, et j'adore l'abstraction, donc c'est très bien. On a des artistes, hein, j'ai Isabelle Malmeza aussi qui travaille sur de l'abstraction, et ça c'est intéressant aussi. Mais c'est pas un choix délibéré de ma part. Donc effectivement, j'ai pas de paysage, j'ai pas de choses comme ça. C'est pareil, je ferme pas les portes, c'est juste que pour l'instant, j'ai pas trouvé un artiste qui fasse des choses dans cet univers-là et qui me parle.
L'an passé, la galerie fêtait ses 10 ans. Depuis 2005, le public a évolué. Voici ce que Soisy Claude nous en dit.
En 11 ans de parcours, en fait, on a un petit peu affiné aussi l'offre qu'on avait à la galerie. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas affinée, on l'a ouverte. C'est vrai qu'on propose des choses qui sont plus variées qu'au tout début, forcément. Hein. Et après, la clientèle a changé, mais c'est globalement... la clientèle des galeries est en train de changer en ce moment. Donc après, on n'a rien fait pour que ça change. Et puis, il y a des gens qui nous suivent depuis le tout début. Donc ça, c'est très bonne publicité parce que c'est des gens qui sont contents du contact qu'on a eu il y a très longtemps, à l'ouverture. Voilà. Puisqu'on a cette démarche-là, en fait. On a une démarche où les gens viennent nous voir, viennent sur l'expo et trouvent leur bonheur dans l'expo. Et donc c'est très bien. Et on a aussi des gens qui vont chercher des choses très spécifiques et on va faire les recherches pour eux. Donc ça, c'est encore une autre approche. Mais du coup, avec toutes ces choses-là, la galerie s'est construite et puis évolue, grandit, s'enrichit de nouvelles rencontres artistiques. Donc forcément, on propose des choses qui sont encore différentes. Donc ça a forcément évolué et ça continuera à évoluer de toute façon. Je ne veux pas m'enfermer dans quelque chose qui serait trop statique. On a remarqué, pas la précédente adresse, mais celle encore avant, parce qu'on a essayé quelques adresses avant d'arriver ici, qu'on avait une salle notamment petit format. Et c'est vrai que c'est une salle qui fonctionnait très bien il y a quelques années, où les gens... qui n'avaient pas forcément de très gros moyens, mais qui voulaient se faire plaisir, craquaient assez volontiers. Et là, on se rend compte qu'en ce moment, ces gens-là font plus attention, parce que économiquement, c'est un petit peu plus difficile. Et du coup, on n'a plus cette clientèle-là. Et c'est vrai que maintenant, les acheteurs en galerie sont quand même un peu plus des gens qui ont un peu plus de moyens et qui, du coup, se dirigent un petit peu plus sur les grosses pièces. Mais on a toujours... Alors moi, je veux toujours garder cette volonté de démocratisation de l'art autant que faire se peut, c'est-à-dire qu'on propose toujours à nos clients de pouvoir régler jusqu'à 10 fois sans frais, ce qui nous permet aussi d'avoir une clientèle d'acheteurs qui est très jeune, des gens qui ne peuvent pas forcément craquer sur un coup de cœur et puis en même temps... Donc pour moi, c'est important, mais c'est vrai qu'on sent une évolution dans la clientèle des galeries.
Pour finir, la galerie a un programme bien chargé pour cette fin d'année 2016. Petit résumé de ce que vous pourrez y voir.
Tous les ans, on fonctionne comme ça. Tout le mois de décembre, c'est un joyeux désordre à la galerie puisque tous les artistes sont là en même temps. Donc, comme ils ont tous des univers très différents, forcément, ça part un petit peu dans tous les sens, mais ça, c'est sympa. Ils jouent tous le jeu de nous amener des pièces inédites. Donc, ça, c'est bien aussi. Ça permet de redécouvrir les artistes qu'on a aimés dans l'année. La plupart, on les suit depuis longtemps. Et on a en général 2 ou 3 nouveaux artistes qui nous rejoignent pour cette exposition-là. On a remarqué que les gens, sur cette période-là, aimaient bien faire des cadeaux, mais qu'ils aimaient bien se faire plaisir aussi. C'est sympa, ça fait partie de l'ambiance de Noël. Les gens ont un peu plus de temps, ils flânent un petit peu. Et puis après, sur janvier, on repart sur un rythme d'exposition personnelle, puisque c'est ce qu'on fait toute l'année.
C'était Soisy Claude, galeriste de Rennes. N'hésitez pas à aller faire un tour dans sa galerie au 16 rue de Bertrand. Elle est ouverte du mardi au samedi de 14h30 à 19h. Et la grande exposition collective débutera début décembre et durera jusqu'en janvier. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir la multiplicité des artistes représentés. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site internet et sur leur page Facebook. On vous mettra de toute façon tous les liens sur notre page Facebook à nous. En attendant et jusqu'au 30 novembre, vous pouvez y voir les peintures sensuelles de Céline Ranger, dont Héloïse va nous parler dans un instant. Avant cela, je vous propose d'écouter le groupe Minuit avec Recul.
reflet du miroir m'a troublé ce matin. J'y ai vu une femme, cheveux couleur carmin. Ses yeux jaunes ont transpercé mon âme et j'ai perçu tout au fond un tourbillon de flammes. Instant mystique, panique, et je lui ai dit: recule, 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 tu me fais peur. Recule, je crois que je meurs. Les lèvres rouges sang m'ont glissé à l'oreille. Désormais, pauvre sotte, rien ne sera plus pareil. J'ai voulu fermer les yeux, mais mes muscles répondait plus. J'ai voulu crier, mais ma bouche n'a pas voulu bouger. J'ai voulu courir, j'étais tétanisée. Recule, recule, recule. Que je meurs. Recule, recule, j'ai peur. Recule, 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 je brûle. Le reflet ce matin m'a paru bien plus gris. L'odeur du jasmin m'a donné du courage. Et mon cœur, cette fois-ci, s'est rempli de rage. Au diable la peur, je prends les choses en main. Au diable la peur, cette fois-ci, je te tiens. Au diable la peur, je prends les choses en main. Au diable la peur. C'est toi qui meurs.
C'était Recul du groupe Minuit. Passons maintenant à la chronique Expo. Héloïse, tu vas nous montrer qu'à Rennes, les galeries sont très productives et qu'elles proposent des expositions diverses, comme à la galerie L'Hôte, dont nous avons parlé précédemment, ou encore dans la galerie Oniris.
Et oui, comme vous l'avez écouté quelques instants plus tôt, on a pu rencontrer Soazic L'Hôte dans sa galerie. Et ça a été l'occasion de regarder un peu plus en détail l'intérieur. Donc des toiles, des sculptures. Vous l'aurez compris, c'est une galerie qui n'est pas avare de création lorsqu'il s'agit de remplir l'espace. Vous trouverez différents artistes représentés dans à peu près tous les coins. Mais c'est aux peintures du rez-de-chaussée qu'on va s'intéresser. Avec l'exposition en cours, celle de l'artiste nantaise Céline Ranger. Donc c'est une artiste indépendante depuis 10 ans maintenant. Et elle crée principalement des peintures, des portraits de femmes. Car oui, la femme est mise à l'honneur jusqu'au 30 novembre dans la galerie L'Hôte. À l'intérieur, ça transpire la féminité, ça déborde de sensualité. Ici, la femme est multiple. Elle est complexe, elle est réellement fascinante et l'artiste nous le prouve. C'est une rangée à peindre des femmes outrageusement maquillées, fardées, les joues rosées de blush, la bouche charnue et rouge, des yeux sombres encerclés de bleu, donc vraiment des femmes très sensuelles et élégantes. Pourtant, l'artiste dit qu'elle ne cherche pas la ressemblance. C'est pas de simples portraits mimétiques, mais comme des figures émotives, des portraits sensibles, des portraits d'âmes, des âmes féminines uniquement ici. Au premier regard, le sujet est envoûtant, la forme aussi. Et les filles, je ne sais pas si vous êtes amusées à vous rapprocher des toiles, mais quand on le fait, la matière semble arrachée, rajoutée, grattée par moments. On devine une couche de peinture très fine sur les visages, alors que le fond laisse deviner beaucoup plus de matière avec du relief et une gestuelle spontanée. Il y a une matière épaisse qui laisse un effet froissé à certains endroits, ce qui donne une peinture matériellement présente, vibrante aussi. Il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage. Pourtant, même avec ce relief, on a l'impression que l'artiste sculpte ses modèles dans la lumière, parce qu'elles sont éclatantes, vives. C'est vraiment des femmes lumineuses. Et ici, en plus de la lumière, c'est la couleur et la matière qui habillent les modèles. Des vêtements et chapeaux de peinture et de mots, comme des affiches, des journaux collés, puis arrachés, qui laissent qu'une vague empreinte de titres ou de slogans qui font en fait les motifs. La couleur nous saute aux yeux. Des couleurs franches, parfois criardes, aussi colorées que le maquillage des modèles. Ou au contraire, des couleurs plus douces et pâles, du beige, du rose, comme un nuage pastel qui entoure les corps délicats. Et malgré l'épaisse matière de peinture, on a quand même une impression de légèreté, de douceur, de pureté aussi un peu. Certains tableaux montrent des visages doux et juvéniles. Les femmes se font enfants sages, innocentes et tendres. Et on a des contrastes qui sautent aux yeux avec des peintures belles, suaves, des couleurs douces qui contredisent avec des visages et des silhouettes plus sensuelles sur les tableaux à côté. Les contours ne sont pas vraiment définis. Les corps se confondent avec le fond, le manteau se mêle au décor abstrait, les coiffures colorées se floutent. C'est seulement le visage qu'on distingue clairement, un peu comme si on avait mis la mise au point dessus, donc vraiment sur le visage. On observe des femmes intemporelles, éternelles, superbes, entre beauté classique et moderne. C'est vraiment des femmes venues d'un autre temps, décrites comme amoureuses, romantiques, rêveuses, courageuses, fières ou alors aventurières. Leur visage en dit beaucoup. Mais il y a quand même une part de mystère qui reste en suspens. Elles sont toutes mystérieuses, intrigantes, étrangement muettes aussi, qu'on n'arrive pas à imaginer le son de leur voix. Et du coup, ce qu'elles veulent transmettre passe seulement par ce regard en coin ou qu'elles nous lancent directement. Des yeux dont on a du mal à se détacher, qui nous happent en fait. Derrière ces femmes se cache peut-être quelque chose d'inavouable, de tu, un silence, un profond silence, même pas des murmures. C'est pour ça que ces toiles restent une énigme. Si une rangée cherche à capter ce qui est de l'ordre du mystère, peut-être du divin d'après elle, quelque chose qui est impalpable, inexplicable, quelque chose lié à l'intime, ce qui fait que les toiles sont parfois chargées de pudeur. Et certaines des femmes baissent timidement les paupières, faussement songeuses, timides, au contraire, d'autres nous font face, assumées, plus désinvoltes, et le regard beaucoup plus sûr aussi. Elles sont émouvantes ou aguicheuses, mais elles sont toutes élégantes, vibrantes, enveloppées dans une couverture de préciosité, si on veut. Comme si un orfèvre avait cousu à même la toile, leurs vêtements et leurs coiffes, et les transforme en icônes précieuses. Et justement, comment on peut qualifier ces femmes étranges ? Des esprits, des femmes, des icônes, des anges peut-être. On ne sait pas vraiment, seulement que ce sont des êtres sublimes et magnétiques. Enfin, donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais en tout cas, si vous voulez me faire un petit cadeau pour Noël, je ne suis pas tout à fait contre. Je vous laisse évidemment vous cotiser. Hein.
Mais manger des pâtes à l'eau pendant 4 mois ou...
Bah écoute, si c'est pour me faire plaisir. Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle de la beauté de ces toiles, mais évidemment, le mieux, c'est de vous faire votre propre opinion. Donc vous avez jusqu'au 30 novembre pour admirer les peintures charnelles de Céline Ranger à la Galerie L'Hôte, au 16 rue de Bertrand, près de Sainte-Anne. Et n'hésitez pas évidemment à aller consulter les sites de la galerie et de l'artiste qu'on vous mettra sur notre page Facebook dès que possible.
Alors tu as été voir une autre galerie en plus de celle-ci ?
C'est ça, la semaine dernière je suis allée à la Galerie Oniris, patronne de la Galerie L'Hôte d'ailleurs, et elle fête ses 30 ans. Donc pour l'occasion, c'est un critique d'art qui s'appelle Philippe Piguet qui avait carte blanche pour l'exposition. Il a donc invité 3 artistes encore jamais exposés à Rennes. Philippe Cognier, Didier Mencoboni et Jean-Michel Alberola. Donc chacun des artistes est exposé dans son propre espace. Et quand vous entrez dans la galerie, c'est d'abord les œuvres de Philippe Cognet que vous voyez. C'est un artiste nantais comme Céline Ranger. Donc lui, il a un intérêt pour l'architecture, les immeubles, pour le paysage urbain en général en fait. Et justement, il propose ici une série de peintures avec des vues aériennes de villes américaines. Alors pour les faire, il s'appuie d'abord sur un modèle photo. Il se base sur des images réelles, mais qui ne sont pas les siennes, ce n'est pas ses propres photos. C'est par exemple des photos de Google View ou des images de vidéosurveillance, ce qui n'accorde pas vraiment d'importance particulière à l'origine de la photo, justement.
Donc il réalise juste des paysages urbains, c'est ça ?
Alors, des paysages urbains, oui, mais il va quand même rajouter sa patte, sa touche. Parce qu'en réalité, il va peindre sa toile avec de l'encaustique. Donc l'encaustique, c'est quoi ? C'est une peinture à la cire d'abeille, sur laquelle il va placer un film plastique. Puis, avec un fer à repasser, il passe sur la toile. Donc oui, c'est assez technique. Et le résultat, eh bien, on voit des bords des immeubles habituellement droits, stricts, qui se floutent. Et le flou atténue un peu la froideur des bâtiments. Donc ça donne un peu l'impression d'une matière cotonneuse ou toute lisse et dégoulinante. On s'approche et ce qui nous paraissait avant identifiable, donc des immeubles ici, bah ça se perd, ça se fond en taches colorées et délavées. C'est un peu comme un souvenir, quand quelque chose pas tout à fait distinct, on force notre mémoire à plus de rigueur, plus de détails et de netteté, mais bah, sans trop de succès. Les formes se déforment, Philippe Cognet cherche à troubler l'image, à troubler la vue. Il crée des sortes de taches avec l'impression d'une peinture diluée à l'eau, un peu comme des gouttes. Ou comme si on regardait à travers une vitre embrumée. On passe les essuie-glaces pour enlever le trop-plein de pluie et dégager la vue, mais il reste quand même un paysage, flou et indistinct. Et si on s'approche encore, on croit voir de la matière de la peinture arrachée. Un genre de pellicule élastique et brillante qui ondule sur la toile et qu'on retire, qu'on arrache, comme des petits morceaux qui sont du coup sûrement restés sur le fer à repasser. On jette un dernier regard aux toiles et on voit que le gris domine largement. On voit aussi des immeubles, des voitures, des rues, mais aucune vie humaine, ce qui donne l'impression de ville fantôme finalement. Puis on va voir le travail du deuxième artiste, donc Didier Mencoboni, un artiste français. Et lui s'intéresse à l'occupation de l'espace et jusqu'où il peut utiliser la peinture. Il y a plusieurs ensembles réunis ici et d'abord à gauche, 5 toiles avec la même technique. À première vue, des toiles peintes en blanc avec des traits, des fragments de lignes qui sont colorés. Alors, est-ce que c'est de la peinture directement sur la toile ? Pas vraiment, mais plutôt une technique mixte, peinture et surtout collage. L'artiste découpe de très fines bandelettes peintes et positionnées à la pince épilée sur la toile, puis il rajoute de la colle. Et à côté, 2 petites toiles qui sont ovales et qui se font face. Elles font partie d'une série qu'il a commencée dans les années 90. Et pourquoi l'artiste les a faites ? C'est à l'origine pour se familiariser avec la peinture. Donc il peignait un ovale par jour. Et aujourd'hui, il y en a environ 2000, tous numérotés. Heureusement d'ailleurs. Enfin, on a 3 tableaux d'assez grand format, peints à l'encre. De loin, on croit voir des monochromes rouges, violets et bleus. Mais on s'avance un peu plus près de la toile et on distingue nettement une multitude de petits points qui envahissent la surface de la toile, ce qui donne presque mal à la tête d'ailleurs quand on s'imagine le peintre les faire un par un. Il fait ça avec un stylo à recharge et en plus, on distingue des variations de couleurs qui sont dues au changement de cartouches de couleurs différentes parce que l'artiste ne travaille pas sur une toile à la fois, mais souvent sur plusieurs peintures en même temps. Ce qui fait qu'il doit régulièrement changer les cartouches d'encre suivant les couleurs qu'il souhaite. Mais la plume reste souvent imbibée de la couleur qu'il a utilisée avant. Ça donne des infimes dégradés, ce qui permet de jouer avec la profondeur. Donc c'est un travail très minutieux, géométrique et totalement abstrait. Des abstractions qui créent des jeux d'optique, des toiles qui vibrent et qui envoûtent. Et dans un autre registre de peinture, c'est Jean-Michel Alberola qui termine l'expo. C'est un artiste qui a une grande rétrospective sur lui au Palais de Tokyo à Paris au début de l'année. Il a une œuvre très, très éclectique puisqu'il utilise des aplats, des néons, des sérigraphies, etc. Et sur les œuvres présentes dans la galerie Oniris, c'est principalement des dessins et des peintures. Et dans son travail, il n'hésite pas à mélanger écriture, onomatopées, des références imagées, des références à l'histoire de l'art ou à l'histoire en général. avec parfois une allusion à la politique. Comme pour la série « Sur notre gauche quand on arrive », qui est l'assassinat de Lénine en 1914. Donc dans cinq cadres, on voit des papiers aux couleurs ternes, beige, jaune ou vert. Et dessus, il a dessiné des motifs qui sont échos. Les mêmes motifs de ligne ou la même tache noire en plein milieu, un noir intense et griffonné. Et cette tache noire, pourquoi ? Bah, on peut juste faire quelques suppositions, peut-être pour évoquer l'assassinat de Lénine, par exemple. Et sur le papier, au-dessus de la tache, il a écrit une citation. Ou plus exactement, c'est une seule et même citation, fragmentée, découpée de manière un petit peu aléatoire, et chaque bout est sur une des œuvres. Donc pour lire la citation en entière, il faut observer les œuvres de cette série, les unes après les autres. Il reprend en fait une citation de l'écrivain Gorki, proche de Lénine justement. Et ces bouts de phrases qui se poursuivent n'ont finalement pas vraiment de sens. La phrase reste en suspens à la fin pour représenter le fait que selon Gorki, Lénine n'a jamais été écouté de son vivant. Donc l'artiste fait très souvent intervenir des politiques ou des grands penseurs dans ses œuvres. Mais comme je vous l'ai déjà dit, sa pratique est très diversifiée. Et on a par exemple, en face de la série sur l'assassinat de Lénine, une peinture abstraite d'un jaune velouté, satiné. On sent de la matière, comme une éponge qu'on aurait fait glisser ou frotter doucement contre la toile. On a juste deux mots peints à la manière d'un pochoir, surface connue. Donc c'est assez énigmatique. Il y a des personnes qui voyaient une ressemblance avec la peinture de Rothko, d'où le titre. J'ai envie de dire peut-être, hein, pourquoi pas. Alors c'est vrai que pour décrire ou comprendre les œuvres de Jean-Michel Bérola, on utilise beaucoup trop le conditionnel. C'est parce qu'on n'a pas vraiment de clé pour lire ses œuvres. Et lui, il n'en donne pas en tout cas. On doit faire presque à chaque fois notre propre interprétation. Donc on lit ses œuvres un peu comme on souhaite, en résumé. Ce que je vous invite à aller faire, bien sûr, d'aller vous promener un petit peu dans le centre de Rennes. Et après avoir vu la galerie L'Hôte et l'artiste Céline Dranger, par exemple, vous allez faire un petit tour dans la galerie Oniris pour voir l'expo de ses 30 ans jusqu'au 3 décembre. Donc je rappelle l'adresse au 38 rue d'Entrain. Mais on vous mettra aussi tous les liens sur la page Facebook toujours.
Merci Héloïse. On écoute maintenant Paris de Caro Emerald.
Vitre difficile. I'll take hours to perfect.
C'était Paris de Caro Emerald. Nous allons maintenant entrer dans l'univers d'un des grands peintres du 19e siècle et du modernisme. J'ai nommé Édouard Manet, et plus particulièrement dans son atelier en compagnie du célèbre écrivain Émile Zola. Alors, nous avons imaginé ce que pouvaient être les conversations entre ces deux personnages lors de cette séance de pause, puisque le peintre a portraituré son ami Émile Zola. Lucille incarne Zola pendant que j'incarne Manet.
Je marchais en direction de la rue Guyot, où s'était établi mon ami et peintre Édouard Manet. Quand il m'a proposé de faire mon portrait pour le salon de peinture, je me suis empressée d'écrire à Théodore Duret, qui, en tant que critique d'art d'une grande influence et ami partageant mon goût pour l'art, saurait comprendre ma fierté d'un tel événement. Tout comme moi, il a manifesté un vif intérêt pour la peinture. Un intérêt que j'ai moi-même éprouvé très tôt grâce à mon ami d'enfance, Cézanne, qui fut rejeté par la critique officielle. J'avais un goût assez prononcé pour ces talents que cette critique officielle ou académie ne comprenait pas. Il y a de ça un an, j'ai écrit sur Manet dans la revue afin de défendre la peinture de celui que je considère comme l'un des maîtres de demain dont la place est au Louvre. En déplaise aux partisans de la tradition. Mes pensées s'interrompirent lorsque j'arrivais devant sa porte.
Je le fis asseoir sur mon siège dont la couleur sombre faisait ressortir ses feuilles d'or brodées. Il s'était habillé de sa veste noire à coupe large et de son pantalon gris, qui tombait droit sur ses bottes vernies. Il croisa ses jambes, faisant apparaître ses chaussettes de couleur rouge, et me regarda. Je lui dis « Mets-toi plus de profil, Émile, et n'hésite pas à prendre le livre. » Émile Zola prit alors l'ouvrage, un de mes favoris, « L'histoire des peintres » de Charles Blanc. Il le laissa reposer de sa main gauche sur le bureau, en face de lui. Je souris. J'aimais le résultat de notre mise en scène. À sa gauche, un paravent japonais dont j'aimais la simplicité des traits se détachait des murs noirs. J'avais placé sur le bureau la plaquette bleu ciel qu'il m'avait consacrée cette année, ainsi qu'en hauteur la photographie de l'Olympia qu'il avait défendue.
« Je suis heureux que tu l'aies accrochée. »
Il faisait référence à l'estampe japonaise qui faisait partie de ma collection, disposée à côté de l'Olympia. « Je me suis souvenu que tu avais comparé ma peinture à ce genre de gravure, lui répondis-je. » Il retint un sourire. Il avait écrit alors que la ressemblance se trouvait à travers l'élégance étrange et les taches magnifiques.
Je trouve cela dommage de ne pas avoir mis la photographe du joueur de fifre. C'est une de tes œuvres que je préfère. Ton talent a été vraiment ressorti. J'y ai vu ta justesse et ta simplicité à leur paroxysme. »
Malgré ces dires, mon œuvre, le fifre, a été refusée l'année dernière au salon de 1866. Mon nom, Édouard Manet, provoquait le scandale depuis ma peinture de l'Olympia en 1865. Elle t'a beaucoup marqué, n'est-ce pas ?
Évidemment. Ton tempérament était sec. Il arrêtait puissamment les figures. Il passait du blanc au noir sans hésiter. Il rendait dans leur vigueur les différents objets se détachant les uns sur les autres. Tout ton être te portait à voir par tâches, par morceaux simples et énergiques. Ta peinture est solide et forte.
Je sentis sa voix vibrer lorsqu'il prononça les derniers mots. Il continua.
« Je le crierai autant qu'il le faudra, mais je suis persuadée que tu seras un des maîtres de demain, que je croirais conclure une bonne affaire, si j'avais de la fortune, en achetant aujourd'hui toutes tes toiles. »
Alors je suis ravie de consacrer publiquement notre association intellectuelle à travers ton portrait, à notre nouvelle manière en peinture.
À notre nouvelle manière en peinture.
C'était donc la présentation, comme vous avez pu le comprendre, du tableau d'Édouard Manet, qui se trouve actuellement au musée d'Orsay. L'amitié entre Zola et Manet n'était pas la seule amitié existante entre un peintre et un écrivain, n'est-ce pas ?
En effet, beaucoup de critiques d'art du 18e et 19e siècle ont voulu défendre des artistes, notamment Diderot, qui est considéré comme l'un des premiers critiques d'art de l'histoire, qui a fait l'éloge de Chardin, un peintre de nature morte. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait une hiérarchie des genres de la peinture mis en place par l'Académie royale de peinture. Cela commençait par la peinture d'histoire et finissait avec la peinture de genre ou de nature morte. Diderot a alors pris la défense de ce peintre en s'opposant à cette hiérarchie. Il y a également le poète Baudelaire qui a fait l'éloge de Delacroix au sujet de la force de ses couleurs et de son tempérament. Cette relation entre peintre et écrivain a été beaucoup étudiée et notamment travaillée par le cinéma. Je vais citer un exemple assez récent qui est le film « Cézanne et moi » réalisé par Daniel Thompson qui met en scène Guillaume Gallienne dans le rôle du peintre Manet et Guillaume... dans le rôle du peintre Cézanne, excusez-moi, et Guillaume Canet dans le rôle de l'écrivain Émile Zola. La sortie de ce film fut le 6 octobre 2016.
Merci Lucille. Avant de passer à la chronique web et pop culture de Jeanne, je vous propose une reprise par les Piano Guys d'Adèle et du Lacrymosa de Mozart. c'était les Piano Guys et leur reprise d'Adèle et de Mozart. On passe maintenant à la chronique actualité de Jeanne.
Oui, c'est un peu difficile de passer après la bromance de Zola et Manet.
Tu m'étonnes.
Okay. Donc, bonjour à tous. Cette semaine, j'ai décidé de faire une spéciale adaptation, tout simplement parce que l'actualité s'y prête. Donc, je vais vous parler de deux œuvres déjà sorties ou à venir, en lien avec la pop culture et la BD. Donc, au programme, une danseuse étoile, une cyborg, dont je pense que vous avez entendu parler, un autographe et des tulipes de dernière minute.
Alors on commence par la danseuse étoile.
Oui, le 16 novembre dernier est sorti le film Paulina, danser sa vie de Valérie Muller. Ce long métrage est une adaptation de la bande dessinée Paulina de Bastien Vivès qui est sorti en 2011 chez Casterman. Alors voici le synopsis de la BD. Quelque part en Russie, une petite fille de 6 ans s'apprête à passer une audition dans une école de danse prestigieuse. Malgré un manque de souplesse, Paulina Oulinov obtient tout de même le droit d'intégrer la célèbre académie du professeur Bojinski. Imposant la crainte et le respect, ce dernier ne laisse d'ailleurs que peu de doutes quant à la méthode qu'il compte utiliser pour les transformer en danseuses étoiles. La danse est un art, il ne s'apprend pas, il faut l'avoir dans le sang. Ensuite, il faut travailler, et avec moi, vous allez travailler tous les jours et croyez-moi, va falloir vous accrocher. Mais bon, niveau ambiance, ça se pose là, quoi. Vite repérée par le maître, la jeune surdouée entame dès à présent une formation spartiate qui devra l'emmener vers les sommets de la danse classique. Donc dans ce récit, Bastien Vivès invite à suivre l'émancipation artistique et personnelle d'une danseuse russe en devenir. Étalée sur une vingtaine d'années, le parcours initiatique de Paulina est parsemé d'embûches et d'émotions. Dans les coulisses d'un monde fait de rigueur, d'espoir et de souffrance, Vivès explore les préoccupations, les choix et les passions de cette future artiste. Au cœur d'un récit tout en mouvement, il développe une relation empreinte de respect et d'antagonisme entre la disciple et son maître. Alors que l'élève gagne en maturité au fil des pages, le mentor, lui, au détour d'une phrase ou d'une remarque, parvient à raviver la flamme artistique, à insuffler le feu et à provoquer ce déclic qui fait progresser au-delà du talent. Et c'est ce qui a convaincu Muller d'en faire un film. Elle confie dans une interview que c'est cette capacité qu'a eu Vivès de montrer, je cite, « comment les fragilités, les failles d'un individu peuvent au final être les ressorts de sa créativité et de sa réussite. » Vivès, usant d'un dessin en noir et blanc, rehaussé de gris et d'un trait qui épouse la grâce des ballerines russes, donne vie à des protagonistes qui allient souplesse et esthétisme. Délaissant tutu et autres fioritures, il propose une mise en scène efficace et élégante qui véhicule parfaitement la sensibilité du récit et des personnages.
Alors c'est encore une idée de cadeau de Noël, c'est ça?
Oui, je crois que j'ai proposé une BD par semaine.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est à retrouver chez tous vos bons libraires et c'est édité chez Casterman.
Maintenant, la cyborg mystère.
Mystère ou pas, quoi. Donc j'imagine que vous avez sûrement entendu parler du prochain film avec Scarlett Johansson.
Tout à fait.
Oui, qui s'appelle Ghost in the Shell. Donc la semaine dernière, décidément, je vais accrocher sur tous les mots aujourd'hui. La semaine dernière est sorti le trailer officiel du film qui sortira le 31 mars 2017. Trailer qui, au passage, a eu le mérite de me coller dans la tête Enjoy the Silence de Depeche Mode. Depuis une semaine non-stop, c'est terrible. Et donc, je voulais parler de ce film puisqu'il a été adapté de l'œuvre dessinée du même nom de Masamune Shirow. Prépublié entre 1989 et 1991, Ghost in the Shell est un manga futuriste cyberpunk se déroulant aux alentours des années 2030. Donc je vais m'étaler un petit peu sur l'analyse de cette œuvre parce que le cyberpunk est déjà un genre que j'apprécie beaucoup et qui, je pense, mérite une analyse plus approfondie.
Une petite explication pour les non-amateurs.
Du cyberpunk,
oui. Ouais.
Alors, c'est un genre de la science-fiction. Et en général, l'action se déroule dans un futur proche, avec une société qui est très avancée technologiquement.
Ouais.
Et donc les œuvres de cyberpunk, ça analyse vraiment quelles sont les influences de cette technologie sur la société. En fait, on voit vraiment l'homme dépassé par la machine. Donc il y a plein de films et de séries qui ont été inspirés de ce genre-là. Par exemple, je peux citer un film Matrix. Que tout le monde l'a vu.
Non, ça ne me dit rien.
D'accord, ok, tu étais endormie pendant les 20 dernières années.
En hibernation.
Années. Voilà, tout à fait. Il y a Blade Runner aussi, évidemment. Dans les séries aussi qui sont assez récentes, il y a Black Mirror, l'excellente série Black Mirror que je pourrais vous recommander. Real Humans, série suédoise. Pardon. Et plus récemment, je pense qu'on pourrait ranger Mr. Robot dans le...
dans le cyberpunk, tout simplement parce que c'est vraiment, oui, c'est des hackers qui renversent une multinationale, mmh. Donc c'est et
qui renverse l'économie.
Voilà, donc ça c'est intéressant. Voilà. Parenthèse cyberpunk fermée. Alors, on revient à Ghost in the Shell. Le personnage principal est une cyborg du nom de Motoko Kusanagi. Elle fait partie d'une section anticriminelle, la section 9. La trame principale du manga, ainsi que du film d'animation adapté de celui-ci, raconte la traque d'un cybercriminel connu sous le nom de marionnettiste, ou Puppet Master dans la version originelle. Ce cybercriminel prend le contrôle de l'esprit d'un humain par l'intermédiaire du réseau numérique mondial, qui est l'évolution d'Internet. Plusieurs thèmes classiques de la science-fiction sont abordés dans cette œuvre, tels que les rapports entre les hommes dans une société robotisée, mais le sujet principal, abordé tout au long des œuvres de Masamune Shirow, est le suivant. Qu'est-ce qu'être humain ? Car parallèlement à cette trame policière, le manga Ghost in the Shell nous permet de suivre l'évolution de cette héroïne utopique sillonnant le futur dans cette quête existentielle. En effet, le personnage de Motoko Kusanagi est visionnaire.
Ça va aller, Jeanne.
Ça va aller.
Ça te stresse, je vois bien. Oui, c'est le direct, futur un petit peu négatif, mais tu vas y arriver.
Alors, est-ce un corps artificiel au sentiment authentique ? Car seul son cerveau, cyber amélioré par des implants, est d'origine. Ce personnage doute parfois, même souvent, de son humanité. Guerrière qui ignore la douleur, la cyborg est avant tout une des plus belles des incitations à cogiter. Car si son inquiétante proximité avec la race humaine peut rebuter, son caractère artificiel est une invitation à sonder l'abyssale quête de l'âme humaine. Voici une liste non exhaustive des questions à portée philosophique que pose l'auteur. Alors qu'est-ce qui distingue l'être humain d'un robot pensant, ayant conscience de son existence ? Ou encore, qu'est-ce qui fait la spécificité de la pensée humaine ? Que peut-on considérer comme être vivant ? Enfin, où se situe la frontière entre le corps et l'esprit ? Donc pour vous laisser cogiter sur ces questions existentielles et avoir un avant-goût du film de Rupert Sanders, vous pouvez retrouver les 5 mangas édités chez Glénat, ou mieux, le film d'animation de 1995 qui reprend le manga et qui a été remasterisé en 2004 en streaming, évidemment. Parce qu'on va pas se mentir, on regarde tous les trucs en streaming.
Oh non,
pas du tout. Moi, j'achète tous les DVD.
Et maintenant, un autographe.
Oui, alors le 16 novembre dernier, oui. C'est pas vachement de trucs le 16 novembre, en fait, je viens de remarquer ça aussi, Paulina est sortie le 16 novembre.
Ah, quelle coïncidence.
J'ai même pas fait exprès. Alors, Arte Cinéma a lancé un nouveau programme participatif sur leur site Arte TV. Le programme porte le doux nom d'autographe avec un F, dont voici le principe.
Pour utiliser autographe, c'est très simple. Vous avez vu un film ou une série, vous entrez son nom, vous le racontez avec vos mots, et Autographe génère automatiquement un petit film animé rigolo à partir de votre texte. Chaque mot surligné en jaune se traduira par une animation. Donc, plus il y a de jaune, plus votre résultat sera amusant. Ensuite, vous partagez sur les réseaux sociaux, les gens rigolent et like, c'est le buzz. C'est parti !
Donc voilà, arrivé sur le site d'Autographe, vous entrez le nom du film ou de la série que vous souhaitez compter, et vous avez 400 caractères seulement pour accomplir votre tâche. L'exercice peut sembler difficile, mais se trouve être au final très drôle. Alors les internautes s'amusent à parler des détails inintéressants du film en plaçant des phrases incongrues pour les voir illustrées par le petit film. Et surtout, le plus drôle évidemment, c'est que le tout est lu par la voix ultra monotone du robot, qui parfois lit à la française les noms anglophones. Donc c'est assez dégueulasse. L'autre jour, j'ai fait une vidéo sur Madame Doubtfire. Et la vidéo, elle m'a fait genre, voilà, j'ai regardé Madame Doubtfire. Et Madame Doubtfire, c'est trop sale. Donc, pour donner un exemple, Arte a publié sur sa page Facebook sa version de Trainspotting.
Alors, j'ai vu Trainspotting. C'est l'histoire d'une bande de tox, genre punk à chien mais sans le chien ni la crête. Ils essayent de s'en sortir. Un peu. Mais ils les replongent rapide dans la cam. Pas facile. À la fin, l'héroïne sera-t-elle la vraie héroïne de l'histoire ? Donc voilà, j'ai vu Trainspotting.
Trainspotting, très très beau en français. Donc vous recevez un mail de confirmation pour obtenir le lien de votre vidéo afin de le retrouver plus facilement. Au vu du nombre de participations qu'il y a eu depuis une semaine, c'est assez utile. Donc voilà, si vous vous sentez inspiré, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur autographe.arte.tv pour narrer vos fictions préférées en petit dessin. Et surtout, n'hésitez pas à les partager sur la page du déjeuner sur Rennes.
Oui, pour nous faire rire, ce serait sympa.
S'il vous plaît.
Et maintenant, Jeanne, je crois que tu as une petite information sur l'artiste contemporain préféré des Français, Jeff Koons.
Je ne sais pas si c'est le préféré.
Je ne crois pas non plus.
D'accord.
Le plus connu.
Bref, ben oui, j'ai vu cette actu ce matin, en regardant les infos à la télé, qu'hier, il y a eu une annonce officielle que Jeff Koons offrait à la ville de Paris une œuvre qui s'appelle « Bouquet of Tulips ». Avec mon accent anglais toujours si bien.
T'inquiète pas.
Bouquet de tulipes qui a été offert à la ville de Paris et qui va être installé en 2017 devant le palais de Tokyo. Donc c'est une grande main tendant un bouquet de tulipes. Donc c'est une grande sculpture en bronze. Donc c'est un écho à la main portant la torche de la Statue de la Liberté. Et c'est pour commémorer les attentats du 13 novembre et aussi pour symboliser l'amitié américano-française. Donc voilà, ça a été annoncé hier matin et c'est un cadeau fait à la
nouvelle
ville
toute fraîche.
Donc voilà.
Merci Jeanne. L'émission s'achève maintenant. Merci aux chroniqueuses et à Adèle, notre réalisatrice.
Merci Adèle.
Vous retrouverez tous les sujets d'aujourd'hui sur notre page Facebook, comme toutes les semaines. N'hésitez pas à y aller. Et on vous retrouve mardi prochain. Alors on s'intéressera entre autres à la galerie Mika située à Saint-Grégoire et à Victor Hugo, à Delacroix. Donc ne nous loupez pas. Hein. Nous serons à la même heure mardi prochain. En attendant, on vous laisse avec Pogo, Bigger Blue. Bon après-midi et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Better than it's all look like.
Draw that press.